provoquer chez le conférencier un choc cognitif suffisant pour qu'il tombe de cheval et qu'on puisse récupérer ses armes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, que je fais très très bien, en fait. Je sais provoquer exactement le choc cognitif nécessaire à désarçonner tout conférencier, même extrêmement mandarinal. Il peut se mettre en colère, mais il est quand même désarçonné. Et je lis, évidemment, grâce à la psychologie, je lis sur ses traits le désarroi intime. Donc voilà, je ne sais pas s'il prend, il met ou il dépose les armes, mais il se trouve que dans l'université, ben voilà, vos armes sont là, vous les mettez, vous allez tournoyer, vous revenez et vous reprenez la lecture. Voilà. C'était un mode de vie qui me convenait parfaitement. La philosophie était bien entendu autophage. La seule chose dont parlait la philosophie, c'était la philosophie. Ça, c'est Hegel qui l'a dit. Hein, la seule chose qui reste infinie dans ce bas monde où l'art, l'histoire et la politique sont finies, c'est la philosophie. Seule chose infinie, j'adhérais parfaitement à ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Faut pas faire de l'art, faut faire de l'histoire de l'art. Faut pas faire de la religion, il faut faire de l'histoire des religions, et puis il ne faut pas faire de la politique, il faut faire du commentaire politique au sens dont on en parlait hier avec Pierre-Yves Maillard. Donc la philosophie était parfaitement autophage, ce qui me convenait. Il y avait seulement un doute: est-ce qu'il existe un monde extérieur? Et je pense que cette question était profondément frivole de ma part. Je ne me suis pas douté qu'il existait un monde extérieur, je me suis posé la question sérieusement, et cette question a été, si j'ose dire, une petite impulsion pour quitter l'université, mais c'est plutôt en voyant ne pas revenir le corbeau qu'en lâchant la colombe que je me suis dit qu'au fond, le monde extérieur pouvait exister. Et oui, il existait. Voilà. Il y avait là un gymnase qui s'appelait le gymnase de Montbenon, qui est maintenant, si je ne me trompe, une partie du tribunal, je crois. Et dans ce bâtiment riant, il y avait le monde extérieur, c'est-à-dire des élèves, des profs, un directeur, un doyen sympathique mais assez cinglé. L'enseignement, le petit monde de l'enseignement, comme on le voit dans une sorte de miniature absolument charmante. Il y avait peu de classes avec des filles. Et moi, j'aimais bien enseigner, tout simplement parce qu'au fond, par rapport à l'évêché, vous voyez, où il y avait beaucoup de bruit. Il y avait peu de bruit dans une classe, pour épérorer. Et puis, il y avait des jolies filles qui avaient l'air contentes. Donc, ça me suffisait. Je veux dire, ça me suffisait. J'avais déjà la preuve de l'existence du monde extérieur. C'est déjà le troisième mouvement métaphysique. Le monde existait, il existait là, j'étais content. Et puis, ensuite, j'ai été enseigné dans un plus grand gymnase, plus sérieux, au bord du lac. Où j'ai découvert une des principales fonctions de l'enseignement, c'est-à-dire le transfert. Le jour où une amie que j'avais prise comme experte pour le bac m'a dit: est-ce que tu te rends compte que toutes tes élèves ont plus de 1000 francs d'accessoires sur elles? Et il y a transfert au sens où elle regardait ce que j'avais mis sur moi, qui ne valait pas autant. Et je me suis dit finalement qu'ils avaient droit à avoir un professeur dont ils puissent être fiers et qui soit joli à regarder. Donc la question qui se pose pour les élèves, c'était ma première appréhension des besoins des élèves, c'est: est-ce que j'ai envie d'être cet homme-là ou cette femme-là? Est-ce que je peux imaginer que je deviendrai quelqu'un comme ça? Si c'est non, dit Freud, l'accès aux sciences est durablement barré. Je cite un texte de Freud qui s'appelle « Sur la psychologie du lycéen », que je considère comme, dans ce domaine pédagogique, comme absolument biblique. Et c'était le transfert. Après le transfert, il y a quand même un élément qui est dans les besoins des adolescents, c'est la stabilité cognitive. C'est pour ça qu'on se met à faire des cours, et c'est un grand problème pour les professeurs qui vont partir à la retraite. Qu'est-ce qu'on va faire de nos cours? En fait, je pense qu'ils vont suivre exactement ce qu'on a fait des travaux écrits. C'est-à-dire qu'on s'en est débarrassé. Mais c'est un processus assez complexe. La mise en déchet d'un certain nombre de produits écrits de l'enseignement, que ce soit les travaux écrits ou longtemps après les cours. Alors ça, c'est un problème qui est intéressant aussi, c'est la stabilité cognitive. Vous devez faire des cours parce que vous devez pouvoir répondre à toutes les questions. Je continue ma route, hein, ça c'est le gymnase. Quand je n'ai pas photographié l'établissement, je n'ai pas eu le temps, parce que l'idée m'est venue tardivement, j'ai pris un élément de repérage à rien, mais c'est bon, il y a certains établissements qu'il faut regarder de haut, par exemple le gymnase Auguste Piccard, où j'ai passé 2 ans. Donc je dirais que là, le quatrième besoin du gymnasien, c'est un besoin de zone proximale. c'est-à-dire vous devez faire des choses pas trop difficiles pour eux, mais qui soient proximales, c'est-à-dire qu'ils puissent pas faire tout seuls. Et vous dites, oh, il a réussi à le faire, et il se dit, j'ai réussi à le faire, et après, il réussit à le faire. Voilà, c'est du Vygotsky expliqué aux masses, mais ça correspond assez bien à ce que j'ai appris, que je savais faire pour à l'université, pour faire tomber de cheval le conférencier, je savais aller un peu au-delà de la zone proximale. Donc ça lui prenait un petit moment à comprendre ce que je voulais dire, et à ce moment-là, le désarroi s'installait. Ça, il tombe de cheval. Mais si on reste un peu en deçà de la zone proximale, alors les élèves vous aiment bien, parce que ce que vous faites est difficile, mais en même temps, on se sent fier de savoir ça. Donc, c'est en fait le processus qui marchait. Puis le troisième, ça c'est l'arrivée au gymnase de Morges, n'est-ce pas ? Où les fondateurs sont réunis sur cette photo, on était 15 à faire un gymnase. Donc ça, c'est une expérience extraordinaire. On fait un gymnase avec rien. On peut faire un gymnase avec rien. Jusque-là, je pensais que le gymnase, c'était comme le désert des Tartares, c'est-à-dire c'était une grosse forteresse qui existait déjà. On devait attendre que les autres soient morts pour devenir capitaine ou colonel. Alors là, non, on pouvait être colonel tout de suite, et c'est ça qui me plaisait bien, c'est-à-dire, enfin, capitaine, disons, tout de suite, et on pouvait, en fait, fonder un gymnase. Donc ça, c'est une grande découverte ontologique. Un gymnase, ça se fonde. Pour tous les enseignants qui sont là, fonder une école est vraiment un grand moment de sa carrière. Je crois que c'est quelque chose qui est une récompense du destin que je considère déjà, pour ce qui me concerne, comme très très favorisé. Et puis ensuite, eh bien, le dernier gymnase, la dernière vue du gymnase de Morges, c'est le nouveau. Les photos que j'ai mises dans Instagram ne sortent pas, et il n'y a pas de coaching pour les choses frivoles de ce genre-là, ce qui fait que j'ai pas pu la sortir, mais le gymnase de Morges est un très bel objet, et je donnerai le quatrième des besoins des gymnasiens, c'est l'intimité, selon Erikson, c'est-à-dire de pouvoir être reconnu dans sa personnalité en formation, accepté et apprécié, et c'est un élément fondamental de la relation, de la stabilité de la relation pédagogique. Alors, je ne me fais aucune illusion sur l'école, je l'ai toujours vue comme un gros dispositif de pouvoir. Pourquoi suis-je allé là-dedans ? J'ai d'ailleurs fait mon séminaire pédagogique en même temps que mon école de sous-officier. Ben, je dirais que c'était comme Descartes, je voulais voir les cours et les armées. Voilà, alors j'ai vu les cours et les armées, et ce métier m'a plu parce que la relation pédagogique m'a plu. Je pense qu'elle peut se stabiliser que si on tient compte des besoins des gymnasiens, c'est-à-dire un besoin d'intimité, un besoin de stabilité, un besoin de transfert, et puis le quatrième, c'est un besoin... Il en manque toujours un dans les... C'est utile de répéter, mais c'est à ce moment-là que cognitivement, il va vous en manquer un. C'est-à-dire un besoin, en fait, de proximité, c'est-à-dire de zone proximale. Hein. Il faut faire des choses qui ne sont pas trop difficiles pour eux, mais quand même assez difficiles pour eux. Il faut trouver le juste moyen de mettre en route cette relation. Et avec ça, la relation pédagogique, ça vers finalement un dispositif incroyablement stable. C'est étonnant. L'école, ça marche. C'est curieux, mais ça marche. Alors, le lieu de réflexion sur le fait que ça marche, pour moi, ça a été le séminaire pédagogique. Là, j'ai donné un cours sur l'histoire de l'école et des données et des idées pédagogiques. Et j'ai eu un nouveau public qui était mes cadets dans la tâche de devenir professeur. Alors, ce n'était pas un coaching comme la didactique, c'était un élément plus simple qui était la réflexion sur l'école, la réflexion comme l'école dispositif de pouvoir et la relation pédagogique, mais aussi à travers les textes, les questions sur la finalité de l'école. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais ça m'a occupé pendant une dizaine d'années la recherche des dispositifs pédagogiques et de leur finalité est une question théorique que je reprendrai peut-être un jour. Mais là, j'ai eu vraiment un nouveau public, c'était le public du SPES, c'était mon premier public adulte. Ensuite, je suis entré au gymnase du soir. Retour à la cité où j'avais embrassé une fille pour la première fois sur la bouche dans le grand escalier, et à ces éléments pubertaires s'ajoutait en fait l'étrangeté de se trouver dans une institution qui n'en était pas une, qui avait lieu la nuit comme le conseil des rois de Platon, et qui se trouvait être en fait étrange dans le sens où il n'y avait aucune obligation. Les gens qui étaient là venaient de 20 à 80 ans, non j'exagère, de 20 à 50 ans, ils voulaient faire une maturité par des voies parallèles, et en fait s'ils étaient là, c'est qu'ils supportaient de venir la nuit, qu'ils avaient aménagé leur vie privée pour pouvoir se rendre nocturne. Moi, j'ai dû le faire aussi. J'ai énormément regardé la télévision jusqu'à 3 heures du matin parce que je n'arrivais pas à dormir après être revenu du gymnase du soir. Mais c'est un changement de vie. Et puis, c'est, au fond, la perte d'une illusion, c'est-à-dire que dans la relation pédagogique, l'institution n'est pas nécessaire. C'est avec le gymnase du soir que j'ai fait, et je vous raconte à la fois mon évolution intérieure à travers les publics que j'ai vus, c'est le miroir de mes publics, j'ai découvert que l'institution n'était pas nécessaire pour la relation pédagogique. Alors bien sûr, on perdait beaucoup de monde. Le gymnase du soir perdait 90% des gens qui s'étaient inscrits, ne finissaient pas. Mais ceux qui finissaient avaient tenu, et ils avaient tenu sur une seule chose, c'est la relation avec les professeurs. Donc que la relation pouvait suffire, qu'on n'avait pas besoin de feuilles d'absence, qu'on n'avait pas besoin de règlement, qu'on n'avait pas besoin de loi, qu'on pouvait en fait enseigner, faire fonctionner le dispositif scolaire sans aucun appareil institutionnel. Pour moi, ça a été une révélation. Quand je me suis trouvé dans des situations difficiles, je me suis souvent demandé comment tu ferais au gymnase du soir. S'il n'y avait pas d'institution, s'il n'y avait pas de direction, de doyen, de feuille d'absence, de punition, de colle, comment tu ferais pour régler cette situation? Et c'est en général en s'appuyant sur la relation pédagogique qu'on réussit le mieux. Donc ce public m'a apporté beaucoup. Ensuite, l'université populaire. Alors là, j'ai fait l'économie de l'évaluation, puisque à l'université populaire, on ne donne pas de titre et on ne demande pas de titre. Donc tout le dispositif évaluatif est inutile. Tout ce qu'on fait pour mettre les gens au travail, pour les forcer à travailler et les forcer à goûter, devient absolument inutile. Il existe encore en partie au gymnase du soir, parce qu'on fait des exercices de dissertation, qu'on leur met des notes, qu'on les promeut ou qu'on les promeut pas, etc. Là, ça n'existe plus, l'université populaire, vient qui veut. Bonjour, bonsoir mesdames, bonjour, bonsoir messieurs, et puis le cours commence. Et alors il ne faut pas croire que l'université populaire, bon il faut se créer son public, mais il ne faut pas croire que les adultes vous suivent partout. L'année passée j'ai fait un cours sur Plotin, j'ai fait un cours sur Platon, Platon d'abord, Plotin ensuite, en remplissant ma salle, et ensuite j'ai fait un cours sur Chassé, 6 personnes. Donc le seuil de viabilité pour l'université populaire étant à 12, j'ai fait un demi-cours. J'ai fait 3 cours au lieu de 6. Les 6 personnes étaient convaincues que Chassé est un grand auteur, mais le reste du canton de Vaud pensait que Chassé les a quand même bien... Bon, n'est pas venu parce qu'il fallait quand même pas lui donner ce plaisir, si j'ose dire, au fond de sa tombe où il bouillonne, de venir à un cours sur son œuvre. Voilà, donc on n'est pas propriétaire des adultes. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous avez un public captif à l'école, vous devez découvrir, quand vous enseignez aux adultes, que vous n'êtes absolument pas propriétaire, mais nullement, de votre public, et que la relation pédagogique même ne suffit pas. Alors, quelquefois, ils disent « Ouais, on est venu parce qu'on vous aime bien. » Mais, en fait, ça marche jusqu'à un certain point et, à un moment donné, ça s'arrête. Donc là, vous devez être en phase avec les besoins des gens. Hein? La question, c'est pas « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» La question, c'est « Quoi ils ont besoin ?» Et quand il s'agit des adultes de l'université populaire, ils ont besoin de réparer. Et là, on va trouver quelque chose d'important, cette notion de réparation. Ils ont besoin de réparer. Alors, ceux qui font le gymnase du soir, ils ont besoin de réparer leur moi qui a été endommagé par les professeurs du secondaire, inférieur ou supérieur. À un moment donné, ces gens, on leur a dit « Non, vous n'êtes pas assez intelligent. » Et ils viennent réparer cet outrage. Il y a des gens qui ont fait la maturité, qui étaient admis au préalable à l'université, qui n'ont jamais été à l'université, ils voulaient prouver qu'ils auraient été capables. Et c'est quelque chose de très important, cette notion de réparation. La réparation de l'université populaire, c'est plus profond. On n'a pas eu la culture à laquelle on avait droit. On n'a pas eu la chance d'avoir des enseignants qui vous menaient dans un niveau assez supérieur. Et on va, en fait, à l'université pour réparer, non pas l'outrage au moi, mais l'outrage, je dirais, à la... J'ai envie de dire à la mémoire profonde, c'est-à-dire à la structuration culturelle. Un élément qui est la mémoire à long terme et qui est incomplet ou faible ou mal structuré. Et les cours d'université populaire permettent de structurer cette mémoire à long terme, évidemment aussi de stimuler l'intelligence, mais ça c'est plutôt les cours pour le troisième âge. Il y a une spécificité. Hein. L'atmosphère d'un cours à l'université populaire ne ressemble pas à l'atmosphère d'un cours à connaissance 3. Et puis est arrivé la HEP. Merci Gabriel, auteur de cette immortelle photo. Pour une institution qui s'est déjà effondrée 3 fois, le tout en souplesse est un fabuleux slogan, n'est-ce pas? Mais l'HEP est évidemment une création qui a sa raison d'être, c'est de réunir le corps enseignant primaire et le corps enseignant secondaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus continuer à faire deux écoles dans le canton de Vaud, une école du peuple et une école de la bourgeoisie. À un moment donné, ces deux écoles ont commencé à se télescoper et il y a, avec la dérive des continents dans une société égalitaire, il y a eu nécessairement, en fait, la création d'une seule école, d'une école unique pour tous. Et la création de cette école unique a demandé la création d'une institution de formation unique. Et à coup de réforme, hein, c'est un autre sujet, mais il fait aussi partie de ma biographie, il fera partie de ma biographie numérique complète, à coup de réforme, eh bien, cette école unique s'est mise en place et la HEP a été, en fait, il y a les hiérogamies, le mariage sacré du primaire et du secondaire. Ce qui pouvait évidemment pas se produire sans un certain nombre de frottements et de collisions. Et la HEP a dû intégrer, en fait, des gens d'une culture très différentes qui ont dû apprendre à se supporter. Et alors qu'elle avait au début tous les défauts d'un grand gymnase, elle a maintenant elle est en route vers les défauts d'une université, vous voyez. Donc elle y arrivera. En 20 ans, elle sera effectivement une faculty of education, comme il y en a en Amérique ou comme il devrait y en avoir en Europe. Et ça sera effectivement un empiècement de l'université, ça fait aucun doute. Mais dans la HEP, qu'est-ce que je devais faire? Eh bien, je devais faire une tâche assez complexe qui consiste à faire passer les gens d'un statut universitaire à un statut professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour un professionnel? Il y a 4 compétences qui me semblent nécessaires: de la culture, de la communication, de l'innovation. Hein, créer des choses que... Alors, on me dit, c'est quoi l'innovation? Ben, c'est ce que j'ai jamais vu. Mais on sait pas ce que vous avez vu. Ben, faites, puis vous verrez, je vous dirai si c'est innovant ou si ça l'est pas. Mais je suis l'index de l'innovation, hein, forcément. Et puis l'intégration, c'est-à-dire qu'il faut que les innovations pédagogiques puissent s'intégrer dans un établissement où les gens travaillent. C'est pour moi une valeur très très forte dont la crise d'identité, c'est pas la moindre. Alors, le jeune adulte, bon, j'avais une spécialité qui était 15-20. Et après 20, les élèves me paraissaient trop vieux. Et puis, à un moment donné, je me suis spécialisé dans le 25-30 ou 25-35, puisque la jeunesse s'allonge. Eh bien, c'est très intéressant de se dire qu'à ce moment-là, se produit nécessairement une crise d'identité dramatique. Mais certains la vivent de manière inconsciente, d'autres la vivent de manière beaucoup plus, si j'ose dire, explosive. Il se passe au fait qu'on doit apprendre à ne plus être jeune. Et c'est un deuil assez considérable. Phrase de mes élèves, votre stagiaire, c'est un ringard. Puis je dis, mais vous appelez quoi un ringard? Ils m'ont répondu, c'est un type de 25 ans qui se croit jeune. Voilà, ça c'est un ringard. Et pour pas être un ringard, il y a un passage à faire, il y a un deuil à faire. Et ce deuil est extrêmement intéressant. C'est en fait souvent des gens qui ont déjà fait ce deuil qui viennent à HEP, puisqu'il y a un temps de retard pour devenir philosophe. Ça fait partie des difficultés à se reproduire, d'en parler hier. Mais il y a un temps de retard, il y a un temps d'attente, il y a un temps de liste d'attente. Donc souvent, on a des gens qui sont déjà mariés avec des enfants, enfin dans une posture qui n'est plus celle du jeune. Mais néanmoins, ils doivent, en face des vrais jeunes, ils doivent trouver une posture qui est dans la différence. Moi, j'avais aucune peine à trouver cette posture, parce que je n'avais jamais aimé être jeune. Par contre, j'aime bien les jeunes. Petite expérience à l'école nouvelle de la Suisse romande. Pourquoi est-ce que c'est dans les nouveaux publics? Pour dire un mot de l'école privée. L'école privée m'a appris une chose essentielle, c'est qu'il y a des individus qui ne sont pas faits pour l'école. L'être humain n'est pas intégralement fait pour être élève. Il y a des gens pour qui être élève a été un vrai cauchemar et qui n'ont pas pu monter dans le gros monde de charge public. Le monde de charge public, l'école publique, elle prend tout le monde, elle vous monte. Lentement mais sûrement, mais à une condition, c'est d'y monter. Les gens qui ne peuvent pas entrer dans ce monde de charge parce qu'il y a trop de monde, c'est trop long et c'est affreux, ils sont perdus. Et ils ont une petite chance avec un ascenseur privé qui a un peu une plus petite bulle qui peut réussir à monter aussi parce que ça rattrape en fait le temps perdu dans le monde de charge. Mais faut pas s'y tromper, j'ai vu aussi la limite de la pédagogie, la limite absolue de la pédagogie, c'est des gens qui ne peuvent pas être à l'école. Donc là, on peut s'arranger un peu avec des systèmes du genre gymnase du soir, des relations genre gymnase du soir, mais on se trouve devant des gens qui sont déjà, au fond, pas des adultes, mais déjà des adultes, parce qu'ils ne peuvent plus s'intégrer dans la posture de l'élève. Ils ne sont pas des élèves. Et ils vous le disent tout le temps. Donc, il faut faire un peu d'école avec des gens qui ne sont pas des élèves. C'est un défi qui mérite d'être signalé. Puis, il est arrivé le groupe Vaudois de philosophie. Alors là, je me suis posé pendant 5 ans des problèmes de Schauspiel Director, comme dans les prologues des pièces de Shakespeare et de Goethe, c'est-à-dire comment remplir ma salle. La première séance du groupe Vaudois de philosophie, il y avait 6 personnes. Moi, le conférencier, 4 personnes. Et je me suis dit, bon, on m'a vendu une coquille vide. On m'a fait président d'un truc qui n'existe pas. À moi de le faire exister et à moi de le remplir. Hein? Et j'ai voulu prouver que je ne m'étais pas fait avoir et qu'on pouvait faire quelque chose avec le groupe Vaudois de philosophie. C'est-à-dire que j'ai commencé par essayer d'avoir le plus de monde possible dans le comité, puisque c'était la seule manière d'avoir des gens dans les conférences. C'était le raison de ce trajet. Dans la liste des membres, on envoyait des cartons à 80 centimes la pièce, on envoyait des cartons à des morts. J'ai commencé par retirer les morts. Et après, il y a eu une cascade de démissions parce que je n'étais pas le titulaire normalement prévu dans la succession académique. Et j'ai fait 17 listes en 5 ans de présences différentes. Parce que les adresses changeaient, les gens changeaient, ils adhéraient, ils partaient, ils démissionnaient, etc. Oui.
Accélère parce que.
Alors, volontiers. Public du groupe Vaudois de philosophie, qu'est-ce qu'il lui faut? On en a parlé hier, c'est très clair, c'est 4 interventions énormes. C'est des cycles de thèmes, hein, le partenariat, la mixité, bien sûr, c'est quelque chose de très important, mais pour le comité, ça a été long et difficile. Et puis, il y avait un quatrième élément qui a été commun à tout le monde, c'est l'ouverture à tous les publics. Hein. Mais aujourd'hui, le groupe Vaudois est sauvé. Et puis, la preuve, vous êtes là. J'ai pris un risque. S'il n'y avait personne aujourd'hui, j'aurais dû changer cette partie de mon exposé. Mais ma dernière, si j'ose dire, trouvaille, c'est les aînés. Et là se trouve vraiment un public très très différent. Je vous parlerai très. Le café philosophique a un aspect un peu semblable, mais c'est encore un autre problème, et je vais abréger, je répondrai volontiers aux questions sur le café philosophique. Je parle simplement de connaissance 3. J'ai découvert qu'en faisant des cours d'éthique pour les seniors, ils n'étaient pas matures du tout. On avait à peu près les mêmes problèmes qu'on pourrait avoir en faisant de la philosophie des enfants. Si je dis, vous trouvez un porte-monnaie dans une cabine téléphonique à 1000 francs devant, qu'est-ce que vous faites? Ils s'engueulent entre eux. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une maturité morale. En revanche, après le cours qu'ils avaient beaucoup apprécié, ils m'ont invité dans un jardin de Lausanne pour prendre une petite collation délicieusement préparée. Et là, ils m'ont juste raconté leur vie. Et j'étais écrasé. J'étais écrasé, moi qui avais été relativement favorisé par le destin, par tous les malheurs qui étaient tombés sur ce groupe. Et en matière de deuil, de rupture, d'accident, de santé, de tout, j'étais simplement écrasé par ce vécu qui ne m'était pas perceptible. Et ça m'a fait prendre conscience que la différence entre ma tranche préférée, qui reste 15-20, et les gens qui sont retraités, il y a cet énorme vécu en arrière-plan sur lequel je dois commencer à travailler, mais c'est difficile. J'ai vu un documentaire sur les cours de philosophie qui se donnent dans la prison de Launay, et je m'étais toujours dit, oui, je pourrais faire comme Madame Virieu-Raymond, aller donner des cours en prison. Puis j'ai vu ce documentaire, puis je me suis dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, le vécu que j'ai n'est pas en phase avec ce vécu-là. Et je me suis trouvé, grâce au fait d'être grand-père, en phase un petit peu avec le vécu des seniors, de pouvoir leur dire des choses philosophiques qui étaient convaincantes. Voilà, il aurait fallu parler encore du café philosophique qui se passe à la place de la Palue. Et maintenant la conclusion, bientôt 40 000 heures de cours. J'avais lu dans une biographie de Saint-Exupéry qu'il avait volé 8 000 heures, ce qui était considéré comme énorme pour un pilote de sa génération, 8 000 heures de vol. Alors je me suis dit, tiens, je vais compter combien d'heures de vol en classe. Et j'ai fait un petit calcul avec le nombre de semaines, le nombre d'heures moyen que j'ai fait, etc. Et je suis arrivé à un chiffre qui frôle les 40 000 heures. Donc il frôlera au moment où je prendrai ma retraite de 4 ans. Alors 40 000 heures de cours, ça fait penser à 20 000 lieues sous les mers. Et en effet, tous ces publics sont invisibles. Ils sont invisibles les uns aux autres. Ils sont invisibles aux gens qui me connaissent. Et pourtant, ils existent comme une sorte de galerie de mine que j'ai creusée à partir du gymnase, dans l'invisibilité, et qui ont constitué pour moi le véritable défi à la question que je me posais initialement, y a-t-il un monde extérieur ? Et pour moi, ça a été, je pense, une grande guérison personnelle de pouvoir répondre oui, il y a un monde extérieur, et puis j'ai pu lui parler. C'était ça ma demande, et c'est ça qui fait que je suis content de ce que j'ai fait, même si ça reste invisible. J'espère le numériser suffisamment pour qu'on puisse finalement voir que ce trajet existe, et surtout que ça donne à d'autres l'envie de sortir du cercle et de partir à la recherche du monde extérieur. Merci.
Deux questions.
Faut que je trouve le bon temps. C'est bon. Alors, merci Christophe pour ce brillant exposé. Ça fait passionnant. Il me manque juste la réponse à la question que je croyais que tu avais posée au départ. La question, est-ce qu'on peut parler de philosophie à tout le monde ? Est-ce qu'il y a une philosophie à tout le monde ? Et j'aimerais préciser la question. Il me semble qu'il y a une apparente contradiction, et j'ai moi-même pas de réponse à cette contradiction. Il me semble qu'il y a une contradiction entre, d'une part, le fait qu'on a l'impression que la philosophie parle de problèmes qui concernent tout le monde, donc que tout le monde devrait pouvoir s'intéresser à la philosophie et chercher des réponses, et d'autre part, l'expérience que j'ai fait moi-même, mais je pense que tous ceux qui sont vraiment penchés en philosophie ont fait cette même expérience, c'est l'expérience comment on ne peut pas savoir ce que c'est les mathématiques avant d'avoir fait soi-même une démonstration jusqu'à la fin, jusqu'au QED. Je pense qu'on ne peut pas savoir ce que c'est la philosophie si on n'a pas souffert en lisant au moins une des grandes œuvres. Il faut avoir fallu quelque chose comme la critique, la raison pure de Kant, les 800 pages, il faut avoir souffert avec tout ce que ça implique comme ennui, comme travail, comme souffrance, comme frustration. Voilà pour moi la contradiction.
Je vois bien la contradiction, mais je différencie très nettement deux rôles, c'est-à-dire le gymnasien qui est là avec ses besoins de sécurité, d'intimité et de respect, et puis l'étudiant qui apprend à faire le petit chevalier et puis à être méchant avec les conférenciers. Donc c'est deux rôles très différents. L'étudiant doit avoir lu la critique de la raison pure, mais le gymnasien pas du tout. Il suffit qu'il en ait entendu parler. Fondamentalement, il faut revenir à beaucoup plus d'oralité, méthodologiquement parlant. On les tue avec des textes, ils sont tués avec des textes en histoire, en géographie maintenant, en langue, en français, en philo, il faut raconter, il faut qu'il y ait un élément narratif qui intervienne, et puis un élément dramatique, où on oppose. Moi, j'attends la création de l'hologramme de Platon qui pourra surgir dans les classes pour répondre aux questions. Et je pense que de ce point de vue-là, on doit sortir de cette culture de la page écrite, et qu'on doit être capable de faire vivre d'une certaine manière dans l'intimité de Kant, s'il y en a une, alors même qu'ils n'ont pas lu une ligne de Kant. Qu'est-ce que c'est que lire ? Est-ce que c'est avoir tourné les pages ou c'est savoir ce qu'il y a dans un bouquin ? La question se pose dans les lectures d'excellentes explications de texte sans avoir jamais lu le livre. Donc il y a une question sur la lecture. Et pédagogiquement parlant, je préfère que quelqu'un fasse un exposé avec quelque chose qui reste, avec un message marquant, à en fait d'avoir lu une page qui passera à la poubelle, il tombera dans un scooter une heure plus tard. Alors, maintenant, sur l'universalité, la philosophie est universelle, ça doit se prouver. Ça doit se prouver.
Ça ne marche pas, ça ne fait rien.
Si, ça marche.
Ça fait rien tout le temps. Hein. Alors, tu as prouvé la force dramatique de la narration, puisque j'étais intéressée par une histoire que je connais par cœur. Quand on vous la raconte, toujours la narration, c'est très puissant. Mais ma question, c'est la suivante. En t'écoutant, moi, je n'enseigne pas la philo, mais je pourrais mon expérience est la même.
Bien sûr.
Hein, je n'ai pas du tout vu dans ton exposé la spécificité de l'enseignement philosophique.
Alors, J'ai tendance à penser qu'il y a un seul métier de professeur pour des branches très différentes. Hein. Donc c'est d'où mon adhésion à l'idée que la pédagogie est nécessaire, que ce n'est pas vrai que la philosophie, comme on le dit parfois, est sa propre pédagogie. Je pense qu'on a besoin des sciences humaines pour comprendre les élèves. Je pense qu'on a besoin aussi, d'une certaine manière, de sciences auxiliaires pour faire de la philo. Mais il y a une spécificité de la philosophie, c'est qu'on peut tout dire. Il y a un ordre du discours qui est en quelque sorte suspendu, et dans les autres disciplines bien nommées, il y a un ordre du discours qui prévaut. Il y a des choses qui ne sont pas sérieuses, il y a des choses qui sont écartées, il y a des discours qui sont considérés comme frivoles ou comme insignifiants. En philo, on peut prendre parti de tout. C'est-à-dire, on peut faire de la philosophie avec tout, comme vous l'avez vu hier à faire Alexandre Rigel avec les enfants. Hein. On met un mot et puis il se développe quelque chose. Donc il y a une particularité de l'enseignement philosophique, c'est pour ça qu'il vient relativement tard dans le cursus, depuis les jésuites, mais aussi depuis l'ordre du chancelier Rollin. Hein. Donc il n'y a pas que les jésuites qui ont mis la philo à la fin. C'est qu'il permet de libérer les élèves de l'ordre du discours. Il permet de problématiser l'ordre du discours. Et c'est bien qu'il reste quelque chose de flottant dans la définition de la philosophie, qui permet en fait aux élèves de se rendre compte que cette activité un peu ludique, faut bien dire, est en même temps quelque chose qui est extrêmement libérateur par rapport à tout ce qu'on pourrait considérer comme l'ordre disciplinaire. Alors évidemment, mes collègues adorent remettre de l'ordre disciplinaire dans l'enseignement de la philo, faire comme si c'était une branche normale, mais ça ne sera jamais une branche normale, et pour les élèves, ça ne sera jamais un enseignement normal, qu'ils y adhèrent ou qu'ils n'y adhèrent pas.
Merci beaucoup pour cette bonne parole.
Merci Christophe.